When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Bonjour à tous et bienvenue dans Tour d'Europe, votre podcast hebdomadaire consacré à l'actualité du football européen. Je suis Cyril Morin, journaliste à Eurosport et encore une fois, cela dit, le programme est très chargé. On va commencer cette émission avec le terrifiant, le monstrueux Erling Haaland, auteur d'un nouveau triplé dimanche face à Manchester United. Jusqu'où ira-t-il? On posera la question à notre correspondant Philippe Auclair. On enchaînera avec la Ligue 1 pour parler de l'Olympique de Marseille, vainqueur à Angers vendredi 3-0. L'OM peut-il enfin gagner en C1? On verra tout ça avec Elton Mokolo. On enchaînera ensuite avec l'Inter Milan en Italie, l'Inter qui est en crise, Simone Inzaghi qui est sur la sellette. On évoquera les Nerazzurri avec Guillaume Maillard. On enchaînera ensuite en Espagne avec le très bon début de saison de l'Athletic Bilbao. Anna Caro vous expliquera comment ce club anachronique réussit encore en 2022. Et petit bonus pour ce Tour d'Europe, on ira au Portugal pour parler et du Sporting et surtout de Benfica, les adversaires de l'OM et du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, avec notre spécialiste Julien Pereira. Voilà, vous connaissez le programme, alors Tour d'Europe, c'est parti. C'était un week-end à être anglais. On est resté scotché devant notre écran de télé du samedi 13h30 avec ce North London Derby jusqu'au dimanche et cette correction de Manchester City sur Manchester United. Pour parler de tout ça, on accueille Philippe Auclair, notre correspondant en Angleterre. Salut Philippe, est-ce que tu t'es remis de tes émotions de ce week-end plein de football?
À peu près. Pas encore complètement. J'ai eu le privilège d'être à l'Emirates pour le derby du Nord de Londres, qui était une occasion assez remarquable au niveau de l'atmosphère, de l'ambiance. C'était absolument fantastique. C'est sans doute la meilleure ambiance que j'ai vécue dans un match d'Arsenal depuis, en fait, on va dire, les années 2002-2004, quand Arsenal était vraiment au top. C'est pour vous dire qu'il se passe quelque chose de très, très particulier dans ce club. Et puis bien évidemment, comme tout le monde, scotché, je crois, est le mot pour juger de la performance de Manchester City et notamment de l'un de ses joueurs ou deux de ses joueurs, voire même de trois ou quatre de ses joueurs face à Manchester United. Et en effet, oui, c'est un week-end qui va peser lourd, je pense. C'était la 9e journée, mais bien évidemment, il n'y en a eu que 8, puisque vous savez qu'il y en a une qui a été déplacée à cause de la mort de la reine. Mais on commence quand même à voir maintenant une bonne idée de ce que l'on devrait voir dans les mois qui viennent, et je pense que vous savez tous ce dont je veux parler, et je pense que vous pensez tous exactement la même chose que moi.
Oui, alors avant de parler de l'homme qui terrifie la Première Ligue et de l'équipe qui terrifie la Première Ligue, juste un petit mot sur ce North London Derby. Tu nous as parlé de l'ambiance. On a vu aussi sur le terrain que finalement Arsenal, ce que tu nous expliquais il y a deux semaines, était bien un prétendant. Alors, pour le titre, ça risque d'être compliqué, évidemment, mais pour ce top 4, quasiment assurément. Et la manière dont ils ont réussi à battre ce Tottenham de Conte, alors bien aidé par l'expulsion assez stupide d'Emerson Royal, certes, mais il se dégage quelque chose de ces Gunners qui est quand même très nouveau.
Ce qui se dégage hors de ce que nous avions déjà l'année dernière, qui était de l'enthousiasme, de la créativité, beaucoup de tranchants, ce qu'il y a maintenant, c'est du calme derrière. Ce qu'il y a, c'est une équipe qui sait contrôler ses moments faibles, comme elle en a eu un, d'ailleurs, pendant 15-20 minutes après l'égalisation de Kane sur penalty. Mais elle a su temporiser, elle a su revenir dans le match, elle a su également retrouver immédiatement son rythme en début de seconde période. Et ensuite, moi, c'est une équipe que j'ai vue souvent peiner à 11 contre 10, c'est-à-dire ne sachant pas trop comment s'y prendre. Ça arrive, ça. Oui. C'est-à-dire reculant, étant trop prudent. Non, pas du tout. Ils ont continué de prendre le match à la gorge. Et ils ont dominé, en fait, j'allais dire de bout en bout, non, on excepte cette période d'un quart d'heure, on va dire, où Tottenham était à la même hauteur. Mais sinon, ça a été impressionnant de maturité. C'est toujours aussi solide. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, ayant regardé ce match, vont se demander si c'est le même William Saliba qui joue en équipe de France avec Arsenal, parce qu'il a de nouveau été, je dirais, exceptionnel et face à l'un des meilleurs attaquants du monde, Harry Kane, qui était quand même flanqué de Son Heung-min et de Richarlison, qui ne sont pas non plus n'importe qui.
Les derniers venus, ouais.
Et les individualités sont là. Gabriel Jesus continue de régaler match après match. Granit Xhaka est totalement transformé. Dans un rôle, il est vrai un petit peu différent, c'est-à-dire jouant plus avancé du milieu de terrain gallois quand il était à Arsenal. Et vous mettez tout ça ensemble. Et franchement, également, la synergie, la communion qui existe entre le public d'Arsenal et cette équipe fait que oui, au vu aussi des contre-performances des autres,
oui,
du fait que Chelsea va encore prendre un petit peu de temps à se trouver sous Graham Potter, sera dangereux bien évidemment, que Tottenham, on a encore vu les limites du système Kanté, même si encore une fois ce système-là va produire des résultats, Liverpool ne va pas nécessairement très bien, il y a l'inconnu Brighton, dont il faudra bien qu'on parle un jour, et puis bon, il y a les autres, mais ça les autres, on n'en parle pas, ceux qui jouent en bleu ciel, qui sont sur une autre planète, même s'ils ne sont que second au classement. Mais bon, oui, Arsenal doit viser une place dans le top 4, qui leur a échappé l'année dernière d'un rien, on se souvient, c'était la défaite à Tottenham, la défaite contre Newcastle. Là, cette année, vu leur départ, ils ont déjà 21 points sur 24 possibles. Bon, c'est simplement formidable et ça confirme l'excellence du travail de Mikel Arteta avec cet excellent groupe de jeunes joueurs, avec au passage un banc impressionnant. Oui. Quand on voit à qui peut faire appel quand il décide de reposer un peu ses troupes, on se dit « oulala, ça aussi, ça a changé ».
Alors si tu le veux bien Philippe, on va passer aux autres et à l'autre, l'OVNI qui est en train de prendre le pouvoir en Premier League, c'est même pas en train, qui a pris le pouvoir et qui n'a rien demandé à personne, c'est évidemment Erling Haaland et Manchester City qui a donc corrigé Manchester United dans le derby dimanche, une victoire 6-3, mais surtout cette première mi-temps achevée sur le score de 4-0 avec une impression de surdomination et le sentiment que finalement rien ne peut arrêter cette équipe et rien ne peut arrêter Erling Haaland. La première question, elle est toute simple. Est-ce que tu t'attendais, toi, à avoir un tel début? On est à 14 buts, je crois, pour Haaland en 8 matchs. Il a marqué plus que 14 équipes de Première Ligue à elle toute seule, dont des équipes comme Chelsea, Manchester United, voire Newcastle. On sait que l'Angleterre l'attendait au tournant, mais à ce point-là, personne ne pouvait s'imaginer que ses débuts seraient aussi fracassants.
Non, surtout après son premier match pour Manchester City, qui était le Community Shield. Tu te souviens peut-être qu'à l'époque, il avait touché que deux, trois ballons pendant ce match. Et on s'était dit, bon, ça va être compliqué pour lui. On a très, très vite compris. Parce qu'au rythme qui est le sien aujourd'hui, s'il continuait comme ça sur sa lancée jusqu'à la fin de la saison, il terminerait avec 76 buts en championnat. Rien qu'en championnat, hein, bien évidemment. Non, je ne m'y attendais pas. Mais ce qui est assez extraordinaire, c'est que je devrais reprendre ça parce que j'en ai vu qui s'étonnent, par exemple, de la différence de rendement entre Erling Haaland avec le Borussia Dortmund en Bundesliga et avec Manchester City en Première Ligue. A priori, on pense à la Première Ligue comme étant un championnat à un niveau moyen supérieur à la Bundesliga. Je ne veux pas faire offense aux copains ici, mais à mon ami Lorto en particulier. Mais le fait est que si on regarde les résultats européens, tout ça, c'est une évidence. Ben, ce que l'on n'avait pas pris en ligne de compte, c'est que on avait un joueur qui, lorsqu'il est arrivé à Manchester City, a transformé Manchester City, et qu'on a un club, Manchester City, qui a transformé Erling Haaland. On a donc une espèce de double métamorphose, de synergie, de symbiose, qui fait, ce qui fait que ce n'est pas une addition, c'est une multiplication. Et ce n'est pas une multiplication par zéro. Et ce n'est pas une multiplication par un non plus. Donc ça veut dire qu'on a un joueur qui est en train de découvrir, je pense, une facette de son jeu qu'il ne connaissait pas nécessairement, parce qu'il joue vraiment numéro 9, ce qui n'était pas son cas à Dortmund, où il utilisait les espaces, il était surtout connu pour ses grandes courses, on en voit de temps à autre, hein, malgré tout, sur les contres de City, mais on voit surtout un joueur qui est là dans les 6 mètres, dans la zone de danger, et qui est imparable, on peut le dire, enfin le finish de son deuxième but avec les crampons en avant, moi j'avais l'impression de revoir le très grand Gerd Müller. C'est des buts qui nécessitent beaucoup de courage, beaucoup d'instinct, mais également beaucoup de technique. Et quand on voit également sa passe décisive pour le but de Foden, qui est une passe à la De Bruyne, et quand on voit la passe de De Bruyne d'ailleurs pour le premier but, on pourrait continuer comme ça longtemps. C'est qu'en fait, ils ont maintenant en place, et ça c'est également nouveau, une espèce de quatuor quintet offensif qui va sans doute bouger de match à match parce qu'il faut quand même préserver les organismes. Mais on sait qu'il y aura de toute façon Kevin De Bruyne qui est indéracinable, Erling Haaland qui est indéracinable. Et on voit Phil Foden qui s'entend parfaitement avec lui. Et on voit Bernardo Silva également qui est absolument superbe. Et on se dit, bon ben voilà, ah mais derrière ils ont aussi, ah oui mais ils ont aussi Riyad Mahrez. Et puis on peut continuer comme ça longtemps. Hein. Et donc à ce point de vue-là, je reviens à ce que tu disais, et je suis surpris, oui complètement, je suis bluffé. Et maintenant je me pose la question, mais qu'est-ce qui peut les arrêter? Et ça ne sera pas les blessures au niveau de l'effectif parce qu'ils en avaient ce week-end, dans ce qui était censé être un match compliqué contre une équipe de Manchester United qui a retrouvé des couleurs depuis 4 matchs, depuis que Cristiano Ronaldo ne joue plus et d'ailleurs est resté sur le banc puisque Anthony Martial est rentré devant Cristiano Ronaldo.
Oui.
Enfin bref, ce qui également fait couler pas mal d'encre ici.
Et...
Mais oui, en effet, tu vois un joueur qui entre dans une nouvelle dimension et tu vois également une équipe qui entre dans une nouvelle dimension et tu te demandes, mais qui peut les arrêter?
Est-ce qu'en Angleterre, ce débat se prolonge sur la scène européenne? Est-ce que maintenant, tout le monde voit Manchester City comme le favori ultime pour cette nouvelle édition de Ligue des Champions? Sachant qu'on sait, les saisons précédentes, ce qui avait manqué parfois à Manchester City, c'est peut-être ce joueur-là qui peut punir les adversaires dans les temps forts qu'à Manchester City, et Dieu sait qu'ils sont nombreux dans ces matchs.
Oui, écoute, moi ce que je te dirais, c'est que sur un match, bien évidemment, tout est possible. Ils ont quand même concédé 2 matchs nuls cette saison. Tu peux avoir un match nul en finale de la Ligue des Champions et être battu au tir au but, par exemple. C'est tout à fait possible.
Tout à fait.
Donc, ce n'est pas une certitude, mais dans l'état actuel des choses, et puis également au vu de la façon dont les grands clubs européens, dont tu les vois jouer aujourd'hui, tu te dis, mis à part le PSG qui est en train de trouver également un nouveau niveau, qui confirme semaine après semaine qu'il y a beaucoup de constance, tu regardes, le Bayern ne va pas bien, le Real Madrid reste le Real Madrid, et n'oublions quand même pas les énormes coups de bol que les Madrilènes ont eu, et bravo à eux d'en avoir profité dans leur progression l'année dernière, où ils auraient franchement dû être éliminés 3 fois avant de remporter le trophée. Tu te dis, mais qui est à cette hauteur-là? Et la réponse, c'est personne. Donc c'est normal, tu les vois comme favoris, archi-favoris, pour le titre de champion d'Europe. Mais alors, il y a évidemment toujours le point d'interrogation qui est, tant que l'équipe actuelle n'est pas victime du type d'avalanche de blessures que d'autres équipes ont eu dans le passé.
Oui.
Souviens-toi, ça a pu être Liverpool, par exemple,
Absolument.
A eu ça il y a 2 ans. Ça peut être Arsenal également. Ça peut être des tas d'autres équipes. Et en l'occurrence, même s'ils ont un effectif qui est brillantissime, et ils ont énormément de solutions de rechange. J'oubliais de Jack Grealish au passage,
sûr, évidemment,
qui n'a pas marqué, mais qui a été vraiment très important dans ce match parce que ses courses d'appel ont constamment semé la panique dans la défense de Manchester United. Peut-être qu'on aura le temps de dire deux mots de Manchester United, mais cela dit, tout le monde aurait craqué face à eux.
Oui.
Et la question qui se pose, c'est est-ce que ils vont pouvoir gérer justement Erling Haaland jusqu'à la fin de la saison pour qu'il soit là au moment qui compte. Parce que le type de forme qu'il a actuellement, même s'il est en train d'exploser, c'est un de ces moments de, je ne sais pas, de plénitude.
De grâce.
Ouais, un moment de grâce. Comme par exemple un joueur qui, pour moi, est le seul auquel je fasse référence pour Haaland, dans un style. Pourtant, le physique n'est pas tout à fait le même. C'est Ronaldo Fenomeno.
Ok, d'accord, carrément.
C'est le seul. Oui, et c'est-à-dire pour moi, le plus grand numéro 9 de tous les temps.
D'accord, je partage ton avis, Philippe. Sur le cas Haaland, il y a évidemment des choses très alertes de 2022, c'est évidemment tous ces records qu'il est en train de pulvériser. Alors, on va rappeler ici que le meilleur buteur historique sur une saison de Premier League s'appelle Mo Salah. 32 buts en 38 matchs, c'était en 2017-2018. Haaland est parti pour le battre assez nettement. Au même moment de la saison, je crois que Mo Salah avait 4 buts. Haaland en est déjà à 14. Donc voilà. Mais ce qui nous a surpris, c'est de voir ces dernières heures fleurir déjà des commentaires sur la possibilité de voir Erling Haaland battre le record mythique d'Alan Shearer dans cette première ligue depuis 1992. 260 buts. On sait qu'Harry Kane a souvent été évoqué pour être l'homme qui pourrait battre ce record. Finalement, Haaland, s'il continue comme ça, et surtout s'il reste dans la durée à Manchester City, ce qui n'est pas forcément garanti,
non,
il va l'exploser, ce record.
Oui, s'il demeurait en de bonne santé, s'il demeurait dans ce club, et attention, n'oublions pas qu'il va falloir aussi penser à un après Guardiola, parce que ce club est aussi là où il est, c'est pas seulement parce qu'ils ont des moyens absolument colossaux et qu'ils ont en fait acheté ce qui se fait de mieux sur le marché, et à des prix parfois ridicules. Quand je pense malgré tout que Erling Haaland a coûté 60 millions d'euros, j'avoue que... Alors, je sais que les commissions ont été quelque chose d'autre, et que j'imagine que les primes à la signature et les primes et les bonus qui vont s'accumuler vont également être colossaux. Mais bon, 60 millions d'euros, c'est le quart de ce qu'a coûté Neymar.
Ouais.
À peu près. Mais enfin bref, passons. si jamais donc il reste en forme, si le club reste à son niveau, etc. Oui, bien sûr, c'est tout à fait possible, vu son âge. Cela dit, moi, la question que je me pose, c'est d'une part, je continue d'avoir at the back of my mind, une arrière-pensée qui est ce corps n'est pas fait pour le football. Je me trompe peut-être complètement comme les gens qui disaient Usain Bolt n'a pas un corps fait pour le sprint. Ben si. Mais donc, il est tellement à part qu'il y a une part d'interrogation qui demeure pour moi pour ce qui est de sa solidité physique.
D'accord.
Première chose. Et la deuxième chose, c'est que quand on écoute les gens qui gravitent autour de Erling Haaland, on voit qu'il y a un plan de carrière qui a été mis en place et que ce plan de carrière n'est pas nécessairement un plan de carrière qui signifie s'implanter dans la durée à Manchester City, mais plutôt de faire un tour. L'idée, c'est nous voulons que notre poulain, qui a les moyens pour cela, soit considéré comme le plus grand attaquant de tous les temps. Ça signifie donc faire ses preuves en dehors de l'Angleterre. Il les a faites en Allemagne, bon, c'est fait. Mais il reste la France, il reste l'Italie, et il reste surtout l'Espagne.
Bien sûr, avec un club en blanc, si je ne dis pas de bêtises.
Ben oui, avec un club en blanc, tout le monde le sait. Alors, est-ce que ça sera comme d'habitude? Est-ce que Florentino attendra qu'il ait son ballon d'or? Ce qui, au passage, autant, bon, je pense que pour le ballon d'or de cette année, on n'a pas trop de doutes sur qui ça sera. L'année prochaine, si les choses continuent comme elles sont actuellement, je pense qu'il y aura quand même un grand favori si Manchester City va jusqu'au bout en Ligue des Champions. D'ailleurs, un de ses conseillers a été interviewé récemment, je pense, par un média allemand. Et un petit peu en plaisantant, a dit « Oui, on verrait bien 2 ans et demi en Angleterre, 2 ans et demi en Espagne, 2 ans et demi en Italie, 2 ans et demi en France, etc. etc. » etc.
D'accord.
Et en effet, c'est pas du tout impossible, et ça aurait du sens parce qu'en fait, ça permettrait, si jamais parce qu'on est vraiment dans la stratosphère ici, ouais. Voire même on en est sorti, c'est donc en fait de passer au-dessus de Cristiano Ronaldo au niveau, je parle pas au niveau du talent,
je parle au niveau
des statistiques et au niveau également de du fait que Cristiano Ronaldo a montré sa supériorité ou plutôt son immense talent de goalscorer, il l'a pas montré dans un seul championnat. Il les a montrés dans tous. Donc, presque tous. Donc, de ce côté, il a gagné des titres également partout. Donc, de ce côté-là, ce n'est pas complètement garanti. Sur le talent, par contre, oui, c'est évident, ça crève les yeux. Alan Shearer, qui a été un merveilleux avancante, mais Erling Haaland, il n'y a pas de comparaison. Oui.
Ouais.
Au niveau du talent, il n'y a pas de comparaison.
Un dernier mot sur la victime qui a passé un dimanche après-midi très compliqué. Ça aurait pu être n'importe quelle équipe. On a l'impression que ça n'aurait pas changé grand-chose, même si Manchester United a des carences qui profitent parfaitement à Manchester City. Il n'empêche, est-ce que depuis que Ten Hag est arrivé et qu'il a commencé à mettre un petit peu son équipe en place, on voit un peu plus où va Manchester United en Angleterre ?
Oui, mais ça a vraiment été la douche écossaise.
D'accord.
Hier. Parce que Ten Hag avait été, comme c'est d'ailleurs une de ses caractéristiques, il avait été très courageux dans son choix d'équipe. Il avait choisi un 11 de départ très offensif, avec juste McTominay pour soutenir Christian Eriksen en milieu de terrain, ce qui était courir des risques. Mais ce qui a été frappant, c'est le fait qu'ils n'ont pas eu du tout l'attitude sur le terrain qui aurait dû être la leur au vu de la composition de l'équipe. C'est-à-dire qu'on s'attendait à ce qu'ils montrent de l'enthousiasme, qu'ils y aillent, je ne sais pas, qu'ils montrent de l'envie. Ça n'a pas été le cas. Et je crois qu'on est déjà arrivé, c'est assez extraordinaire, parce que quand on pense que Manchester United, c'était leur 7e match seulement, on est arrivé à ce point où eux, comme les autres, quand ils rentrent sur le terrain en face, c'est Manchester City, ils ont déjà perdu dans le tunnel des vestiaires.
D'accord.
Pour moi, cette performance me rappelait celle de certains clubs, parfois de bonnes équipes, lorsqu'ils rencontraient l'Arsenal des Invincibles. Et Paddy Vieira disait à l'époque, oui, on les regardait les yeux dans les yeux dans le tunnel, on savait qu'on avait gagné déjà. Et j'ai l'impression que c'est un peu le cas aujourd'hui. Et donc, Manchester United, ne les jugeons pas là-dessus, même si ça fait très très mal et que cette performance rappelait ce qui s'était passé à Brentford, un autre 4-0 oui. également. Attendons de voir plutôt leur prochain match, voir également ce qu'ils vont faire en Ligue des Champions, parce que mine de rien, ils n'ont pas commencé de la meilleure des façons. Il y a eu des progrès.
En Ligue Europa.
Ils ont commencé par une défaite contre la Real Sociedad, ce qui n'était quand même pas absolument extraordinaire. Et... Enfin bref, on va attendre de voir les matchs prochains pour mieux juger de l'impact de Ten Hag. Par contre, toujours pas de Harry Maguire au passage, qui est blessé. Et puis, je n'ai pas encore de nouvelles de Raphaël Varane, mais je t'avouerai que je suis un petit peu inquiet.
On va surveiller ça, sorti blessé.
On va surveiller ça de près, et je pense que Didier Deschamps va également surveiller ça de près, parce que ça commence à faire beaucoup de blessés, et là, ça me paraît être une blessure au niveau de la cheville, des ligaments de la cheville.
C'est jamais bon signe.
Non, jamais bon signe.
Bah voilà, vous savez tout sur ce week-end complètement fou qu'on a vécu en Angleterre. Merci beaucoup, Philippe.
Merci.
On se voit la semaine prochaine, et nous, on enchaîne, oui. Et on va parler de l'Olympique de Marseille. Allez, on enchaîne et on file en France, finalement. On file à Marseille pour parler de l'Olympique de Marseille avec Elton Mokolo, notre spécialiste Ligue 1. Salut Elton, avant de parler de l'OM, petite tradition de Tour d'Europe, comment s'est passé ton week-end français? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont un petit peu ravi, qui t'ont énervé? Voilà, dis-nous un petit peu ce que tu as vécu ce week-end.
Bonjour Cyril, alors déjà le week-end de Ligue 1 était quand même très productif, surtout le dimanche avec, ouais, pour commencer, la victoire de Lorient à 10 contre Lille, ce qui était quand même un très beau match entre les deux formations parce que Lille n'a pas démérité. Et enfin la victoire lensoise qui confirme sa place dans le top 4. Donc pour moi ça a été un très bon dimanche et ça a été globalement une bonne journée de Ligue 1.
On conseille à ceux qui ne l'ont pas vu d'aller voir le but de Le Bris. Pour
un but
Lorient,
incroyable,
exceptionnel, une transversale de Kaloulou et il met le latéral adverse dans le rétro, ouais, en un coup de rein, c'est assez fantastique. On parlait aussi il y a quelques semaines, Elton, de l'Olympique Lyonnais et du cas Peter Boss. Tu as parlé de Lens qui reste dans le bon wagon, Lyon est largement décroché. Il va falloir trancher à un moment. Que doit faire Lyon avec Peter Boss? C'était la même question il y a 3 semaines, mais on a l'impression que les choses n'ont pas vraiment changé.
Écoute Cyril, au soir du 7 septembre, avant d'affronter Lorient, Lyon avait 3 points d'avance sur Lorient. Aujourd'hui, Lyon a quand même 9 points de retard sur Lorient, qui est 3e du championnat. Ça dit beaucoup des performances lyonnaises en ce moment. Et donc, Peter Bosch, évidemment, est fragilisé. Jean-Michel Aulas s'est exprimé hier en disant qu'il y aurait un point fait après le match contre Toulouse vendredi soir. À voir qu'est-ce qui va se passer, parce que ça nous... Clairement, ça n'augure rien de bon.
Ah oui, non, ça n'augure rien de bon. Et quand on voit le contenu produit à Bollaert dimanche soir, c'est inquiétant pour la suite. On va parler d'un club qui a la chance d'être en Ligue des Champions, contrairement à l'Olympique Lyonnais. C'est l'Olympique de Marseille qui va disputer ce mardi son 3e match face au Sporting Portugal dans un vélodrome à huis clos. Et une question toute simple, Elton. Est-ce que l'OM va enfin gagner en Ligue des Champions? Tu penses quoi, toi, de ce match qui se profile?
Il est question pour l'Olympique de Marseille, à l'occasion de son match contre Sporting, de traduire ce qu'il fait en Ligue 1 et de l'exporter en Ligue des Champions, ce qui est quand même un peu plus compliqué parce que les adversaires sont quand même de qualité, d'autant plus face à un Sporting qui est leader de sa poule, ce qui n'était pas forcément attendu. Donc par rapport à ça, on va écouter notamment les déclarations de Pablo Longoria du côté de la Provence en disant que la qualification n'était pas encore compromise, il n'était pas question de parler de 3e place, il était surtout question de se relancer ou plutôt de se lancer à l'occasion du match face au Sporting. Clairement, Cyril, il est temps pour l'Olympique de Marseille de s'imposer à domicile.
On se souvient que l'OM sort sur une série de résultats négatifs en Ligue des Champions qui est absolument ahurissante. Est-ce que cet OM-là, cru 2022-2023, est fait d'un bois différent de l'OM des saisons précédentes qui subissait en Ligue des Champions? Est-ce que toi, tu crois que cet OM-là a la capacité de se qualifier ou au moins de sauver l'honneur et d'accrocher la 3e place?
Demain soir, Cyril, à 18h45, pour l'Olympique de Marseille, il sera temps de se rebeller face à ce qui se passe sur les 2 premiers matchs de Ligue des Champions, où je ne suis pas autant alarmiste, à savoir, contre Tottenham, tu perds à 11 contre 10. Face à Francfort, Francfort a quand même fait un gros match. Mais tu as eu des occasions du côté de l'Olympique de Marseille. Clairement, tout n'est pas acheté. Mais la Ligue des Champions demande des points, demande des victoires. Et c'est le bon moment pour commencer du côté de l'Olympique de Marseille.
Alors, tu me lances de manière idéale, Elton, sur le gros problème de l'OM en Ligue des Champions. C'est cette faculté à marquer des buts, tout simplement. Toujours aucun but marqué dans la compétition. On s'est amusé à comparer les fameux expected goals, donc en gros les buts attendus versus les buts dans la réalité. On voit qu'en Ligue 1, l'OM est sur quelque chose de positif, c'est-à-dire qu'ils ont plus marqué que ce que prévoyaient les expected goals. En revanche, en Ligue des Champions, c'est zéro pointé, tout simplement. Qu'est-ce qui manque à cet OM pour être en capacité de faire mal à l'adversaire en Ligue des Champions et de transformer les rares occasions qu'il se procure ?
Cyril, le but est le meilleur entraîneur au monde, encore plus en Ligue des Champions face à des oppositions relevées. On l'a vu contre Tottenham face à une organisation défensive. On a vu les limites structurelles de l'Olympique de Marseille. Bon, même s'il y avait quand même des blessés comme Dimitri Payet. Et donc, Alexis Sanchez était suspendu. À l'occasion du deuxième match, tu as fait preuve de beaucoup de maladresse. Clairement, du côté de l'Olympique de Marseille, ce qui te manque notamment, c'est beaucoup plus de créativité face à des équipes qui sont quand même bien plus structurées qu'en Ligue 1. Et surtout, un peu de réalisme. Beaucoup de réalisme même.
Créativité, réalisme. On va tourner autour évidemment du trio de devant. Est-ce que toi, depuis le début de saison, on a vu que Tudor avait beaucoup essayé de schémas différents. Est-ce que toi, tu as un trident qui ressort dans l'animation marseillaise ou en tout cas, quelque chose que tu aimerais voir face au Sporting ?
Eh ben, écoute, Cyril, là, je suis en train de me faire des nœuds dans la tête parce que je suis incapable de te dire quel trio sera aligné demain. À savoir, est-ce que tu as compté sur la bonne forme de Luis Suárez qui a été buteur à l'occasion du match contre Angers,
mais qui a montré des limites malgré tout sur certains matchs.
Exactement. Est-ce que tu vas de nouveau relancer et Payet et Gerson qui ont été décevants contre Francfort? Est-ce que tu vas mettre Guendouzi dans le trio offensif? Il y a beaucoup d'interrogations. Aujourd'hui, c'est factuel. Du moins en Ligue des Champions, l'Olympique de Marseille n'a pas trouvé son trio. Et pour moi, si tu arrives à trouver rapidement ton trio, parce qu'il ne reste pas non plus beaucoup de matchs en Ligue des Champions, ça sera quand même capital pour espérer avoir un avenir pendant en Ligue des Champions.
On s'est amusé à dresser un petit peu la liste des meilleurs buteurs de l'OM cette saison. Alors, il y a Alexis Sanchez qui est premier avec 4 buts, Luis Suárez avec 3. Ensuite, c'est Nuno Tavares avec 3 buts et Gerson avec 2, si je ne dis pas de bêtises. On a l'impression que finalement, il manque un profil à la Milik, on va dire, un attaquant à même de transformer les nombreuses courses faites par les latéraux, de transformer peut-être les offrandes qui peuvent arriver à tout moment de la part de Payet, de Gerson, voire d'Alexis Sanchez. Est-ce que toi aussi, c'est ton analyse ou finalement, Sanchez est l'attaquant qu'il faut à l'OM de Tudor?
Écoute, Cyril, c'est le serpent de mer du côté de la Canebière depuis plusieurs saisons, à savoir qu'il manque ce fameux grand attaquant du côté de l'Olympique de Marseille qui n'arrive pas à traduire notamment la supériorité marseillaise. Alors aujourd'hui, Alexis Sanchez est le meilleur buteur. Il va falloir qu'il soit secondé, qu'il soit épaulé. Et c'est pour ça qu'on attend beaucoup plus de Suárez, qu'on attend beaucoup plus de Gerson. Pourquoi pas un Bamba Dieng qui est revenu dans la course à l'occasion du match contre Angers. Tout est ouvert clairement.
Et ben voilà, on va suivre avec attention les performances de l'OM. On espère pour l'indice UEFA français que ce sera un peu meilleur et que l'OM va réussir à...
D'ailleurs, on a un France-Portugal entre Benfica PSG et Marseille Sporting qui sera très intéressant.
Exactement, il me fait même les transitions, Elton, il est parfait. Merci beaucoup, Elton.
Merci,
on vous donne rendez-vous la semaine prochaine encore une fois pour parler de Ligue 1. Et nous, on s'envole en Italie pour parler de l'Inter. Nous voici donc en Italie avec Guillaume Maher-Pacini, notre spécialiste de Serie A. Comment ça va, Guillaume? Comment a été ton week-end italien? Est-ce qu'il y a une image que tu as envie de mettre en avant?
Écoute, la vieille dame va mieux, Cyril.
Ah oui, on en parlait en plus il n'y a pas longtemps.
Ouais,
c'était pas la joie.
Voilà, quand ça n'allait pas, on l'a dit. Voilà, hier, la Juve, évidemment, a gagné face à Bologne 3-0 dimanche soir. De bon augure quand même avant la Ligue des Champions qui arrive cette semaine et le choc Milan-Juve samedi prochain à 18h. Mais voilà, alors ce n'était pas une grosse équipe de Bologne en face, Cyril, mais on a revu des belles choses, une solidité du côté de la Juve. Allegri qui respire un peu parce que c'était deux semaines compliquées pour lui aussi, on le sait, très critiqué. Seul bémol hier pour la Juve, quand même, le stade, Cyril, était vide. On sent quand même qu'il y a une espèce de fracture qui se crée entre les tifosi qui... voilà, qui ont du mal quand même à, voilà, avec le jeu et les résultats de la Juve et justement l'équipe qui a répondu quand même sur le terrain et qui a remporté une victoire qui va faire du bien au moral des troupes d'Allegri.
Alors, tu parles de morale et tu nous parles de coach en danger. Tu nous offres une transition rêvée pour parler du sujet qui nous réunit. Guillaume, on vient te voir pour parler de l'Inter Milan. Dauphin la saison passée de l'AC Milan, champion il y a 2 ans et déjà quasiment largué pour la course au titre puisque l'Inter est à 8 points du Napoli et de l'Atalanta qui se partagent la tête de la Serie A. Beaucoup de critiques autour de Simone Inzaghi. Fais-nous peut-être un panorama un peu complet de pourquoi l'Inter a réussi un début de saison, enfin connaît un début de saison aussi raté.
Ce qu'on peut dire déjà, c'est une grosse surprise. Honnêtement, personne ne s'y attendait, surtout après le mercato qu'avait fait l'Inter. Et surtout, ils finissent deuxième l'année dernière à quelques points du Milan. Donc, c'était serré jusqu'à la dernière journée. Alors, ce qui se passe, c'est quelque chose de plus global. On a un entraîneur quand même qui est fragilisé, qui a du mal à trouver les solutions pour sortir de ce moment justement compliqué. 4 défaites en 8 matchs, c'est énorme. C'est 1 défaite sur 2. Donc, les résultats ne sont pas présents. Il y a, Cyril, le problème du gardien aussi. Onana est arrivé cet été. Handanovic, on le voit aujourd'hui. Alors moi, je dois t'avouer que je l'aime beaucoup, Handanovic, mais c'est vrai que cette saison, on voit que c'est un peu compliqué. Et Onana, quand même, paraissait un peu le successeur naturel. Et pour l'instant, il y a une espèce d'alternance qui s'est créée, mais voilà, on voit que ça ne marche pas ni pour l'un ni pour l'autre. Ouais, on voit une équipe qui est mentalement aussi très faible parce qu'elle mène toujours au score dans le derby contre la Roma encore ce week-end et qui, à chaque fois, au moindre élément négatif, se fait rattraper et arrive toujours, d'une manière ou d'une autre, à perdre. Donc, voilà, on l'avait vu avant la trêve face à Udine, donc une fragilité mentale, une fragilité psychologique. Il y a un manque aussi de conditions physiques. La préparation estivale en Italie fait beaucoup parler de l'Inter parce qu'on voit des joueurs, honnêtement, on peut parler de Milan Skriniar, par exemple, qui s'est courtisé par le PSG longuement cet été et qui, on le voit aujourd'hui physiquement, comme le reste de l'équipe, est vraiment en grande difficulté. Et voilà, c'est une espèce de cercle vicieux qui fait que l'Inter aujourd'hui, tu l'as dit, est largué en championnat et on est qu'au bout de 8 journées. Donc, c'est vrai que quand tu es déjà relégué à 8 points du duo de tête, alors que tu vises le titre, c'est quand même ça l'objectif de l'Inter, ça fait qu'aujourd'hui, on part quand même d'une crise profonde pour l'Inter qui va affronter dans quelques jours, Cyril, le Barça. Donc,
tranquille. On est optimiste. Tu parles de ce manque de conditions physiques, de manque de repères dans le jeu aussi. Est-ce que finalement, ce n'est pas la fin de l'ère Conte et que cet Inter-là a surfé assez largement la saison passée sur ce que Antonio Conte avait mis en place, mais que Simone Inzaghi est un petit peu incapable ces dernières semaines de mettre quelque chose de nouveau dans la machine?
Alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas Conte, parce qu'on sait que son jeu est un peu clivant, Conte amène toujours une mentalité gagnante dans toutes les équipes, soit à la Juve, à l'Inter, à Chelsea, ou même à Tottenham aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on voit que l'Inter mentalement est très friable. Et c'est vrai qu'avec Conte, elle arrivait toujours à maintenir le 1-0 ou même à rester 90 minutes dans le match. Aujourd'hui, l'Inter subit les événements et est incapable de réagir. Et c'est vrai que dans ces moments-là, c'est quand même l'entraîneur qui doit aussi t'amener des solutions. Même au niveau des remplacements. Moi, j'ai l'image de cette Udinese Inter juste avant la trêve où Inzaghi, au bout d'une demi-heure de jeu, change 2 joueurs, Bastoni et Mkhitaryan, parce qu'ils venaient de prendre carton jaune. Et tu vois, même ça, c'est des petits éléments qui font qu'aujourd'hui, on a l'impression de voir un Simone Inzaghi qui est un très bon entraîneur, parce qu'il a gagné quand même quelques trophées avec la Lazio et avec l'Inter l'année dernière, il en a gagné 2. Oui. On voit qu'aujourd'hui, Inzaghi est en confusion. Et ça, forcément, ça se ressent sur le terrain. Et ce serait trop simple de tout jeter sur lui, évidemment, mais on sent quand même que c'est lui qui est en train de perdre un peu en main son équipe. Et on voit qu'aujourd'hui, il n'arrive pas à trouver quand même les solutions pour sortir de cette crise vraiment qui semble sans fin pour l'Inter.
D'ailleurs, il a été l'auteur d'une déclaration juste avant la Roma qui a un petit peu fait tiquer le propriétaire de l'Inter en expliquant qu'avec lui, les revenus augmentaient et les titres arrivaient. Pour l'instant, l'Inter a du mal à voir venir ces titres-là. Il y a aussi un autre cas qui cristallise beaucoup de tensions du côté de Milan, c'est évidemment Romelu Lukaku, revenu en grande pompe cet été et qui, ne joue pas et est absent sur blessure depuis de trop longues semaines désormais.
Alors, pour revenir sur la première partie de ton propos, c'est vrai que la déclaration fait beaucoup parler et n'a pas du tout été appréciée par le propriétaire Zhang, on le sait, qui est en difficulté économique, qui cherche à vendre le club. Donc, ça aussi, ça fait partie aussi de cette crise un peu.
Contexte.
voilà, ça aide pas l'équipe forcément parce qu'il y a beaucoup de rumeurs chaque jour dans la presse italienne. Donc voilà, c'est vrai que cette phrase n'est pas du tout passée pour un club qui a encore perdu 100 millions d'euros il y a quelques jours au niveau des pertes du bilan économique. Et pour revenir à Lukaku, Cyril, c'est un cas épineux parce qu'il est revenu cet été, on le sait, de manière un peu miraculeuse parce qu'il avait été vendu 115 millions l'année dernière et il revient en prêt avec option d'achat. Donc voilà, c'est vrai que ça semblait un peu un miracle fait par Marotta. Le problème, c'est qu'il s'est blessé à la cuisse. On l'attendait contre la Roma, au moins sur le banc samedi, il n'y était pas. On l'attendait contre le Barça cette semaine, il n'y sera pas, probablement parce qu'il est encore trop juste. On parle déjà du retour au Camp Nou. Donc, on sent quand même que Lukaku a beaucoup de mal à revenir. Une petite stat, il a raté plus de matchs en un mois que lors de ses deux premières années avec Conte. Donc, tu vois, c'est pour te dire qu'à l'époque, il était vraiment toujours sur le terrain indispensable. Aujourd'hui, bah, on le voit, il a du mal à revenir. Et puis, un autre élément, Cyril, c'est qu'il y a la Coupe du Monde qui arrive. On le sait, la Belgique va la jouer contrairement à nous, pauvres Italiens. Et que Lukaku, lui aussi, bah, je pense qu'il y pense et que eh bien, il ne va pas non plus forcer son retour parce que, je te dis une bêtise, mais en cas de rechute, on l'a vu avec Salem Akers du côté de l'AC Milan, s'il rechute, ça fait qu'il pourrait rater la Coupe du Monde. Donc, Lukaku, aujourd'hui, bah, c'est quand même une grosse perte pour l'Inter parce qu'on le sait, Lukaku a un profil atypique qui est capable de changer le jeu de l'Inter. Et aujourd'hui, ça fait quasiment un mois et demi qu'il est absent. On n'a pas encore de date de retour à part, voilà, je te l'ai dit, le retour contre le Barça. Donc, c'est forcément une absence qui pèse sur l'Inter, sur l'attaque forcément pour Inzaghi, parce que c'est un joueur, on le sait, avec Lautaro Martinez, qui est capable de transformer à lui tout seul le visage des Nerazzurri.
C'est quoi la suite, tout simplement, Guillaume? On parlait là, il y a quelques semaines, du cas Allegri, invirable presque par la Juve de par ses émoluments. Est-ce qu'on est sur une situation similaire pour l'Inter? Est-ce qu'ils vont rester avec Simone Inzaghi parce que financièrement, ça coûterait trop cher de s'en débarrasser? Ou est-ce que l'Inter continue de chuter au classement, il va y avoir une sanction à un moment donné concernant l'ancien entraîneur de la Lazio?
Alors, ce qu'on peut dire, c'est que Inzaghi, déjà, n'a pas le même salaire que Allegri. Il a eu quasiment 1 million d'euros, donc... On va dire que contrairement à Allegri, là, ce n'est pas du point de vue financier que ça pourrait bloquer. Pour l'instant, je te parle des dernières news qui tournent en Italie, c'est que Inzaghi n'est pas en danger à court terme. C'est-à-dire qu'il sera là sur le banc contre le Barça, il sera là la semaine prochaine contre Sassuolo. On va dire qu'à court terme, il n'est pas menacé. Par contre, si d'ici au Mondial, ou même un tout petit peu avant, si, parce qu'on le sait, il y a des matchs tous les trois jours, donc ça va être compliqué quand même de changer en cours de route. Par contre, si d'ici au Mondial, il n'y a pas eu un changement de tendance ou que la tendance ne s'est pas inversée, clairement, le licenciement de Inzaghi pourrait avoir lieu. Aujourd'hui, on parle d'Inzaghi pas menacé, mais d'Inzaghi sous observation. Donc voilà, c'est quand même un entraîneur qui aujourd'hui n'est pas certain de son poste. Par contre, on sait qu'il y a toujours la confiance de Zhang qui a été un peu irrité, on l'a dit, par rapport aux déclarations qu'il a pu avoir vendredi en conférence de presse. Zanetti, qui l'appréciait aussi beaucoup, le président d'honneur. Et Marotta, qui a toujours été en symbiose avec l'entraîneur. Donc, à court terme, menacé, non. Par contre, sous observation au niveau des résultats, mais au niveau des prestations, parce que l'Inter, aujourd'hui, au-delà des résultats, est vraiment une équipe qui est en perdition de tous les points de vue.
Ben voilà, vous savez tout sur la crise interne traversée par l'Inter Milan. On suivra évidemment ça dans Tour d'Europe dans les prochains numéros. Merci beaucoup, Guillaume. Et nous, on va aller voir, on parlait d'une équipe malade, on va aller voir une équipe qui pète la forme. C'est l'Athletic Bilbao en Espagne. C'est donc l'heure de parler de football espagnol. On accueille Ana Caro, notre spécialiste de l'IA. Comment ça va, Ana? Comment était ton week-end espagnol?
Et ça va très très bien. Et puis la course au titre est relancée en Liga puisque le Real Madrid a fait 1-1 hier contre Osasuna. Un match un peu compliqué pour Karim Benzema, ouais, qui a raté un pénalty. Je crois que c'est le troisième qui rate contre Osasuna, donc c'est un peu une habitude pour lui presque. Et puis son but refusé juste derrière, donc un peu compliqué pour son retour un mois après sa blessure. Mais bon... Il n'y a pas non plus de quoi s'inquiéter pour le Real. C'est un peu l'habitude, le match compliqué contre Osasuna en Liga.
Oui, et puis c'est une bonne nouvelle pour nous parce qu'on rappellera ici qu'il y a un classico qui se profile le 16 octobre. Donc, si les deux équipes pouvaient être au coude à coude, ça nous arrangerait un petit peu pour raconter des histoires. Ana, on ne va pas parler ni du Real ni du FC Barcelone ce lundi dans Tour d'Europe. On avait envie de faire un petit focus sur une équipe qui est troisième actuellement de Liga. C'est Bilbao, l'Athletic Club. Qu'est-ce qui se passe dans ce club pour que ce début de saison soit si réussi? Ils ont gagné, je crois, c'est 4-0 contre Almeria vendredi, si je ne dis pas de bêtises.
Oui, c'est ça. Ils ont gagné 4-0 contre le promu. C'était un match très, très plaisant. Je serais presque à dire que c'était le plus beau match du week-end en Liga. C'est une équipe qui n'a pas beaucoup changé. Si on prend l'effectif par rapport à la saison passée, il n'y a eu quasiment aucun changement. Si ce n'est que l'année passée, il y avait beaucoup de blessés. Et on pense notamment à Ojan Sanset qui réalise un très très beau début de saison. Lui, cette saison justement, il est enfin au niveau où on l'attend. Il y a beaucoup d'attentes qui sont placées en lui du côté de Bilbao parce que c'est un des joueurs les plus prometteurs au centre de formation du club basque. Et aujourd'hui, il est sur 3 buts, enfin sur un but par match depuis 3 matchs.
D'accord.
Comme Nico Williams, qui sont un peu les deux petites pépites qu'on voit aujourd'hui éclore du côté de l'Athletic, qui amènent leur impact physique, leur fraîcheur. Et c'est vrai qu'on a l'impression que ces deux-là, avec leur énergie, etc., portent un peu l'équipe. Et il ne faut pas oublier quand même que cet été, il y a eu beaucoup de changements du côté de l'Athletic, puisqu'il y a eu un changement de président. Pour l'instant, il n'y a pas encore de nouveau directeur sportif, mais ça devrait arriver. Et on a Valverde, du coup, qui est revenu au club, oui. Alors qu'avant, on se rappelle, c'était Marcelino qui est donc parti.
On était resté, justement, tu m'offres une transition rêvée vers Ernesto Valverde. On était resté évidemment sur son passage au FC Barcelone, qui s'était mal terminé pour lui, beaucoup de critiques. Là, on a l'impression de le retrouver dans un costume qui lui va mieux et de faire ce qu'il sait faire de mieux, c'est-à-dire bien faire jouer ses équipes. C'est un petit peu le cas quand on regarde Bilbao, on prend du plaisir à regarder cette équipe.
Oui, c'est une très très belle équipe. Et ce qu'on voit en fait surtout de Valverde, c'est que il cherche pas. Je pense que le costume à Barcelone était un peu compliqué parce qu'il y a beaucoup de choses à gérer quand on est coach de Barcelone. Oui. Et on fait presque un peu plus de politique que de sportif, des fois. Surtout à l'époque où était Valverde avec beaucoup, beaucoup de stars. Là, à l'Athletic, il se retrouve dans un effectif dont je ne vais pas dire qu'on n'attendait pas grand-chose, mais on va dire qu'à l'échelle nationale espagnole, on ne misait pas grand-chose sur eux. Donc lui, il n'avait pas beaucoup de pression sur ses épaules. Il en avait un peu plus du côté des supporters de l'Athletic qui ont un peu mal digéré l'absence de compétition européenne cette saison vis-à-vis de l'effectif, qui est quand même assez bon, hein, il faut le dire. Valverde a posté ses meilleurs joueurs, ses meilleurs éléments dans les meilleures dispositions. C'est-à-dire que Marcelino, il était un peu ancré dans son 4-4-2, il ne voulait pas trop en sortir. Là, aujourd'hui, Valverde, n'hésite pas à mettre du coup là essentiellement en 4-2-3-1, mais s'il faut passer en 4-3-3 parce qu'il y a un nouvel entrant et que ça lui convient mieux, il n'a aucun souci. Il est très flexible tactiquement et ça fait qu'on a ces matchs-là très plaisants avec des attaques très, très tranchantes menées par les deux frères Williams, qui d'ailleurs ont combiné au dernier match. Et ça fait qu'en plus, on a de la joie qui est retrouvée du côté de Bilbao. Vraiment, tout se passe très bien pour Bilbao. Et d'ailleurs, ils sont dans les top 3 à la fin de cette journée, de cette 7e journée. Et donc, le top 3 aujourd'hui, c'est Barcelone, Real Madrid et l'Athletic. C'est 3 clubs qui ne sont jamais descendus de Liga. Donc, c'est un peu historique.
Alors, de l'extérieur, moi, j'ai une question, Anna. C'est comment ce club qui fonctionne, on a envie de dire de manière anachronique, c'est très beau l'histoire de l'Athletic Club, mais dans le football de 2022, ça semble à des années-lumière de ce qui se fait. Comment ce club a réussi à durer, tu l'as dit, mais surtout à être encore performant, tu l'as dit, l'effectif, il y a des anciens qu'on connaît bien, genre Mounian, maintenant, tu as parlé de Nico Williams, il y a Iñaki aussi, Yuri Berchiche, Ander Herrera pour les anciens du Paris Saint-Germain qu'on connaît. Comment Bilbao réussit à monter un effectif en ayant cette politique que tu vas nous rappeler?
Alors oui, c'est une politique 100% basque. Donc, voilà. Eux incluent aussi la Navarre, donc c'est important. Les joueurs comme Nico Williams, hein, qui est né à Pamplune, peuvent jouer avec l'Athletic. Et c'est vrai que c'est une politique qui est essentiellement basée sur la formation. Et ce matin, dans Mundo Deportivo, qui a une antenne basque, il y avait un journaliste qui disait il faut être fier de ce qu'on est, il faut être fier de ce que peut réaliser l'Athletic, parce que c'est vrai, être troisième de Liga en n'ayant que des joueurs locaux ou des joueurs formés au sein du club, c'est épatant, il faut le dire. des joueurs comme Ojan Sanset ou comme Nico Williams, si jamais ils étaient sortis du centre de formation de Barcelone, je pense qu'on en parlerait beaucoup plus aujourd'hui et qu'on en parlerait comme ce qu'on peut faire pour Gavi, ce qu'on peut faire pour Ansu Fati. Nico Williams, il ne faut pas oublier que là, à la dernière trêve, c'est lui qui fait la passe décisive pour Morata, qui permet à l'Espagne de se qualifier en Final Four. Donc en plus, on a tout cet entrain-là de l'Athletic qui risque aussi potentiellement de pousser certains joueurs de l'Athletic vers la Roja au moment du Mondial. C'est une super promotion pour le football basque et c'est aussi, ça prouve aussi que l'Athletic a raison finalement de fonctionner comme ça. Parce que la saison passée et les saisons passées où c'était un peu plus compliqué, souvent il y avait certains supporters qui disaient non, c'est un peu archaïque, il faut changer ça, il faut qu'on évolue, il faut qu'on inclue d'autres joueurs, quitte à avoir qu'une préférence espagnole à la place de basque. Et au final, on a ces quelques saisons, c'est ce début de saison qui nous fait dire non, il y a du talent au Pays basque, il y a du talent surtout au centre de formation, ils font un très très gros travail et ça permet d'être troisième de Liga aujourd'hui.
On a aussi l'impression d'un attachement particulier aux joueurs. Je prends le cas de Mounian, ça fait des années qu'on le connaît, c'était censé être le nouveau prodige du football espagnol. Il n'a jamais bougé, finalement. Iñaki Williams, c'est pareil, il y a eu beaucoup de touches. Et puis même, des joueurs qui reviennent, à l'image de Ander Herrera, ça aussi, c'est quelque chose de très particulier, c'est-à-dire que peut-être que des joueurs vont renoncer à un peu plus d'argent ailleurs, mais pour rester à Bilbao, c'est cette identité-là qui est un argument en plus.
C'est une identité et un cadre surtout. C'est-à-dire que Iñaki Williams, par exemple, il a toujours eu cette étiquette de crack, de joueur qui devrait faire la différence, etc. Au final, on se rend compte que il n'a pas forcément confirmé tous les espoirs qu'on plaçait en lui. Mais à l'Athletic, on continue de lui faire confiance. Ça fait je ne sais combien de matchs qu'il joue, alors que pour un attaquant, il ne marque pas beaucoup de buts. Hein. Aujourd'hui, il a marqué 3 buts cette saison, soit autant que son frère ou que Ojan Sanset ou que Berenguer, qui ne sont pas forcément des purs attaquants. Et pour autant, on continue de lui faire confiance, on sait qu'il est important dans le jeu, et c'est ça aussi, c'est cet aspect-là de l'identité de l'Athletic, c'est qu'on fait confiance aux joueurs, vu qu'ils viennent de chez nous, finalement, il y a un attachement effectivement particulier de la part des supporters, et les joueurs le leur rendent bien, c'est-à-dire que quand un joueur ne va pas très bien, il sait que dans tous les cas, il aura le soutien de tout le public. Là, en plus, on a l'Athletic cette saison qui a mis en place une grada popular, donc à savoir une tribune debout où, qui est entraînée avec des chants, etc. Et ça rend le spectacle, les matchs à San Mamés d'autant plus beaux. Et ça fait encore plus une grande cohésion entre l'équipe et les supporters.
Ben voilà pour cette belle histoire de l'Athletic Club qu'on surveillera évidemment tout au long de la saison. Mais ça fait plaisir de voir des clubs avec une identité aussi marquée continuer de s'exprimer au plus haut niveau. Merci beaucoup Anna. On va faire un petit transfert, pas très long. On passe de l'Espagne au Portugal pour retrouver Julien Pereira. On termine ce Tour d'Europe par s'envoler au Portugal. Pourquoi ? Parce que les deux équipes françaises en Ligue des Champions affrontent deux clubs portugais. L'OM affronte donc le Sporting mardi à 18h45 et évidemment Paris se déplace au Benfica. On retrouve Julien Pereira, journaliste à Eurosport mais spécialiste avisé du football portugais. Comment ça va, Jap?
Écoute, ça va très bien. En meilleure forme que toi, j'ai l'impression.
Un petit peu, un petit rhume qu'on a un petit peu entendu, j'ai l'impression, au micro. Julien, on vient de voir, non pas pour parler de mon rhume, mais bien pour parler de Ligue des Champions, puisque l'OM, tout d'abord, reçoit le Sporting ce mardi. Une question toute simple, on en a parlé avec Elton avant dans l'émission. Toi, de ton point de vue, toi qui connais le Sporting, est-ce que l'OM va enfin gagner face au Sporting, qui est censé être quand même l'adversaire le plus prenable de ce groupe?
Je dirais que c'est beaucoup moins évident qu'on le pensait, qu'on le disait au moment du tirage. Parce qu'on a vu que, vous venez d'en parler avec Elton, l'OM a toujours ce blocage en C1, ouais. Et c'est tout le contraire du Sporting qui est un petit peu moins convaincant en championnat qu'il y a deux saisons notamment, mais qui joue complètement son va-tout en C1 et qui joue sans pression et qui joue son jeu. On l'a vu au Tottenham lors de leur dernière sortie, c'est une équipe qui est jeune, c'est une équipe qui a des certitudes tactiquement. Et je dirais que sur ce plan-là, les Portugais peuvent largement regarder les Marseillais dans le blanc des yeux.
Ils vont venir pour avoir le ballon ou ils vont plutôt le laisser à l'OM pour piquer en contre et faire très mal?
Je pense que les deux possibilités sont sur la table parce que effectivement le Sporting est capable de garder le ballon. C'est toujours difficile parce qu'on a du mal à voir le Marseille qu'on voit en Ligue 1, en Ligue des Champions. Donc, on a vu que Marseille était capable d'avoir une vraie maîtrise, notamment contre Tottenham. Le Sporting un petit peu moins. Ils savent aussi piquer en contre-attaque. Ils ont des joueurs jeunes, ils ont des joueurs rapides en attaque. Donc, il y a ces deux vrais dangers-là, même si je pense que l'idée de départ d'Amorim, ce sera peut-être justement de jouer son jeu et d'avoir le ballon.
Alors, il y a une autre équipe qui domine en revanche le championnat portugais, c'est le Benfica, presque invincible, enfin invincible d'ailleurs, puisque le Benfica n'a toujours pas perdu cette saison. 14 matchs, 13 victoires, jusqu'à ce week-end, c'était un bilan parfait avec 13 victoires sur 13 matchs. Est-ce que Benfica est invincible, tout simplement, Julien?
Alors, invincible, non, parce que le Benfica aurait très bien pu perdre son match ce week-end face au Vitória. En revanche, je suis assez convaincu sur le fait que c'est l'équipe qui va poser le plus de problèmes au PSG, tout championnat confondu. Alors, toute compétition confondue, pardon. Il y a eu effectivement ce match contre Monaco où Monaco s'en était bien sorti contre le PSG. Lille, ça n'a pas pu fonctionner parce qu'il y a eu le but d'Mbappé très tôt. La Juventus, qui est en déliquescence, n'a posé que très peu de problèmes. Alors oui, il y a eu cette deuxième période, mais finalement, le PSG a eu la maîtrise. Le Benfica, c'est, si vous voulez, une équipe qui est beaucoup plus sûre d'elle techniquement que le Maccabi et qui est beaucoup plus sûre d'elle tactiquement que la Juventus. Et c'est pour ça que pour moi, ça serait très intéressant parce qu'il y a une vraie patte, Roger Schmidt, l'entraîneur allemand du Benfica, qui est de l'école Ralf Rangnick, qui a su vraiment complètement relancer cette équipe qui était un petit peu perdue la saison dernière. Il y a des joueurs qui sont jeunes, qui viennent d'arriver. Il y a des joueurs qu'on connaît déjà depuis longtemps et qui se sont complètement relancés. Et puis surtout, ça joue bien. Il y a un pressing qui est totalement en place et qui peut vraiment gêner le Paris Saint-Germain.
Alors justement, sur ce pressing, il faut s'attendre à voir le PSG pris à la gorge dès le début du match.
Oui, et c'est notamment pour ça que j'avance cet argument-là. La raison pour laquelle ce match sera intéressant, c'est parce qu'il y a deux milieux de terrain au Benfica, qui sont Enzo Fernandez et Florentino Luis. Florentino Luis, souvenez-vous, c'est un joueur qu'on avait évoqué
oui,
il y a deux ou trois ans maintenant, à l'époque d'Antero Henrique, au Paris Saint-Germain. Il se trouve qu'il est titulaire aujourd'hui au Benfica, que son association avec Enzo Fernandez, qui est là d'un joueur dont on va parler dans les prochains mois en Europe, fonctionne très bien. Et c'est pour moi un milieu de terrain qui peut poser beaucoup de problèmes au duo Vitinha-Verratti.
Alors, on va se pencher un petit peu sur les joueurs qui composent cette équipe. Julien, on rappellera que Julian Draxler est prêté par le Paris Saint-Germain, mais qu'il n'est même pas assuré de jouer. On a l'impression que c'est un mélange entre des cracks portugais qui vont inonder le marché dans les semaines et dans les mois qui viennent, et sur des joueurs qu'on avait un petit peu oubliés, qui se sont relancés, à l'image de João Mario, à l'image d'Otamendi. Est-ce que c'est ça, Benfica, c'est-à-dire cet alliage entre l'expérience et la fougue et la jeunesse du Benfica?
C'est totalement ça, Cyril. C'est souvent la formule qui marche chez les clubs portugais. On l'a aussi vu à Porto, notamment. Il y a effectivement ces joueurs qui ont une vraie expérience. Otamendi, qui est vraiment très bon depuis qu'il est revenu au Portugal. On peut aussi parler de joueurs qu'on connaissait. Alexander Ba, on le connaissait. On savait qu'il avait un vrai talent. Il s'est imposé aussi. Enzo Fernandez, j'en ai parlé, qui est lui la petite recrue d'Amérique du Sud et qui va vraiment exploser parce que c'est vraiment un talent comme on en a peu vu depuis 10 ans au Portugal. C'est vraiment la trempe des James Rodriguez et des Radamel Falcao dans le statut totalement. Et puis João Mario, effectivement, qui lui aussi s'est complètement relancé. Il s'était un petit peu perdu en Italie, il s'était complètement éloigné de la sélection. Et maintenant, il est totalement de retour au premier plan parce que c'est un titulaire indiscutable. Il est capable d'aider cette équipe à garder le ballon, à construire ses offensives, et il s'est aussi rapproché de la sélection par le même coup.
Alors Julien, je vais te piéger, est-ce que Benfica va faire tomber le Paris Saint-Germain? Et on a besoin d'un petit pronostic, on a besoin que tu te mouilles un petit peu.
Ben, je reste sur mon idée de départ que le PSG va avoir beaucoup de problèmes dans le jeu. Le problème pour Benfica, c'est le problème de toutes les autres équipes qui ont rencontré le PSG jusqu'à maintenant, c'est que devant, il y a trois joueurs qui sont capables de faire la différence tout seuls, et que j'ai quand même tendance à penser qu'un Messi, qu'un Mbappé, qu'un Neymar peuvent faire la différence face à cette défense-là. Donc, dans le jeu, je pense qu'on verra ce qu'on n'a pas encore vu contre le PSG cette saison. Maintenant, il faut voir si les individualités sont encore capables de sauver le PSG. Je ne me suis pas trop mouillé.
Ouais, d'ailleurs. C'est ce que j'allais dire. On termine ce Tour d'Europe avec une réponse de Normand. merci beaucoup, Julien, pour ta présence. C'est la
merci
fin
à toi.
De ce numéro de Tour d'Europe. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure. D'ici là, portez-vous bien et suivez le football européen.